à la fin de l'histoire de l'Ancien Testament, et au milieu de l'Ancien Testament, Néhémie, qu'elle apporte. Nous continuons notre série sur le livre de Néhémie aujourd'hui, et c'est un livre qui parle de la reconstruction de Jérusalem. Le peuple est de retour de l'exil en Babylone, et les gens sont en train de rebâtir les murs de Jérusalem. Ils savent que leur honneur est en jeu, et que même la gloire et la mission de Dieu sont en jeu. Parce qu'ils savent que sans ces murailles, le temple ne sera pas protégé. Ils doivent les reconstruire. Et puis, ils savent déjà que ce n'était pas tout le monde qui voulait que ce projet s'aboutisse. Mais c'est ici, au chapitre 4, que l'importance de l'opposition devient évidente. Ça commence par la moquerie, on l'a vu déjà la semaine dernière, à la fin du chapitre 3, mais ça devient rapidement plus grave. Nous allons lire donc, en fait, à partir du chapitre 3, verset 33. Donc, Néhémie 3, verset 33. Lorsque Sanballat, c'est l'un des gouverneurs de la Samarie, lorsque Sanballat a appris que nous étions en train de reconstruire la muraille, il s'est mis en colère et s'est montré très irrité. Il s'est moqué des Juifs et a dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font donc ces misérables Juifs? Va-t-on les laisser faire? Vont-ils offrir des sacrifices? Vont-ils finir leurs tâches dans la journée? Vont-ils redonner vie à des pierres ensouvies sous des tas de poussière et réduites en cendres? » Et Tobija, l'ammonite, était à côté de lui. Il a dit, « Qui construisent seulement leur muraille de pierre? Si un renard vint dessus, il la fera crouler. » Écoute, notre Dieu, avec quel mépris on nous traite. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage et à la déportation. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi, car ils ont provoqué de front ceux qui construisent. Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple a pris ce travail à cœur. Chapitre 4. Cependant, Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous avons prié notre Dieu et avons mis une garde en place pour nous défendre jour et nuit contre les attaques. Toutefois, les Judéens disaient, la force des porteurs de fardeaux va faiblissant, et il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. Quant à nos adversaires, ils disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et nous ferons ainsi cesser le travail. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tout leur lieu de domicile. Il faut que vous reveniez chez nous. J'ai donc posté le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs armes, en contrebas derrière la muraille, aux endroits abrités. Après avoir tout inspecté, je me suis levé pour dire aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, n'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Lorsque les ennemis ont appris que nous étions au courant de tout, Dieu a réduit leur projet à néant. Et nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Tandis, depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient à la construction, tandis que l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Quant au chef, il soutenait toute la communauté de Juda. Ceux qui construisaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun des constructeurs gardait son épée attachée à la taille tout en travaillant. Et le sonneur de trompette restait à côté de moi. J'ai alors dit aux nobles, aux magistrats et au reste du peuple, le travail est immense et le chantier étendu, si bien que nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. Notre Dieu combattra pour nous. Vous avez bien saisi le terme du culte, je pense. Pour le peuple de Dieu, un projet de construction ou de reconstruction n'est jamais juste un projet de construction. C'est un combat. C'est une question de vie et de mort. Nous avons pris ce verset, la deuxième partie, comme thème pour l'année. Enracinez-vous en lui, en Christ, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce qu'on vous a enseigné. Construisez toute votre vie sur Christ, sur cette fondation qui est Jésus lui-même. Mais sachez que cette construction, c'est un combat. Quel est votre projet de construction cette année? Quel aspect de votre vie devez-vous reconstruire sur Christ? C'est-à-dire, quelle relation, quelle ambition, quel aspect de ta personnalité? Ça peut être beaucoup de choses. Quel aspect de ta vie faut-il reconstruire sur Jésus-Christ? Où sont les brèches dans tes murailles spirituelles? Y a-t-il des brèches dans les murailles de cette église? Nous l'avons dit et redit que le vrai projet pour cette église, par exemple, le vrai projet devant nous, ce n'est pas un projet bâtiment, même si le nouveau local peut être et doit être un outil pour ce projet. Mais le vrai projet pour l'église, c'est de bâtir une église, un peuple qui est fondé solidement sur Christ et sur sa parole et qui invite les autres à nous rejoindre dans ce projet. Mais alors, que ce soit dans notre vie personnelle ou dans notre vie d'église, la vérité de ce chapitre est frappante. Le projet de construire ou de reconstruire est un combat pur et simple. La reconstruction est un combat. Si vous avez déjà essayé de reconstruire une relation, par exemple, un couple, peut-être, une relation brisée par des propos blessants ou par un comportement égoïste, je sais qu'il n'y a personne dans la salle qui a jamais fait ça dans son couple, mais si, on peut l'imaginer. Si vous avez essayé de reconstruire une relation brisée, vous savez de quoi je parle. C'est pas juste qu'il est difficile de reconstruire une relation. Ce n'est pas juste qu'il est difficile de reconstruire son caractère à l'exemple de Jésus. C'est qu'on constate très, très vite qu'il y a une opposition qui cherche activement à détruire le projet. Ce n'est pas juste que c'est difficile, c'est qu'il y a de l'opposition. C'est pas un petit projet de bricolage dans le jardin un samedi après-midi. C'est ce que je serais en train de faire si on n'avait pas le culte aujourd'hui. Je serais dans mon jardin, probablement. Mais là, je travaille tranquillement et j'avance doucement. Parce que je suis pas très doué. Mais c'est pas grave. J'avance doucement. Mais c'est pas ce genre de projet dont on parle. Pour construire notre vie sur Christ, nous construisons dans une zone de guerre. Vous en rendez compte? L'opposition nous entoure, comme des snipers sur les toits, ou un lion rugissant, si vous voulez prendre l'image de la vie. Nous allons commencer donc en regardant comment cette opposition fonctionne, et puis nous verrons notre réponse. L'opposition. Souvent, l'opposition à l'œuvre de Dieu commence par la moquerie, Une voix qui nous dit, comme Sanballat l'a dit devant les Juifs, il est vraiment misérable celui-là. Regardez, il est faible. Il ne cesse d'échouer dans sa vie. Il est ceci, il est cela. Il ne peut pas le faire. Va-t-il vraiment redonner la vie à des pierres ensevelies dans la poussière? Cette relation-là, elle est morte. Ce rêve est mort. C'est de la folie d'essayer de le faire revivre. Et en plus, va-t-il le faire dans la journée? Clairement, non. En fait, c'est trop tard. Vous reconnaissez cette voix qui parle? C'est trop tard. Voilà un mensonge horrible de Satan. Il est trop tard. Il est trop difficile. Et toi, tu es trop faible. Vous reconnaissez cette voix? Parfois, cette voix vient d'en dehors de nous. Une personne qui se moque littéralement de nous, en nous disant que nous ne sommes pas capables, par exemple. Quelqu'un qui veut vraiment nous décourager, ça peut arriver. Ou ça peut être juste quelqu'un qui est pessimiste. Comme les amis de Job qui pensent l'aider, mais qui en fait sont devenus le porte-parole pour les mensonges de Satan, sans le savoir. Ça peut être ça. Ou bien, parfois, cette voix ne vient pas d'en dehors de nous. Comme toute autre tentation, la tentation au désespoir peut très bien commencer en nous, en notre nature humaine, à l'intérieur. Pour être découragé, je peux vous dire, j'ai pas besoin vraiment d'une autre personne. Je peux très bien me moquer de moi-même. Qui connaît mes faiblesses mieux que moi? Qui connaît mes péchés, anciens et récents, mieux que moi? Personne. Et souvent, donc, c'est moi-même qui encourage et qui amplifie la moquerie que Satan envoie dans ma vie. Mais peu importe d'où ça vient, souvent l'opposition commence là. Un constat que le projet est trop grand et nous sommes trop faibles. Et que notre vie est tellement mal construite que si un renard grimpait dessus, tout s'écroulerait. C'est une image forte, ça. Qui n'a jamais eu cette impression? Qu'il suffirait qu'un renard grimpe sur ma vie pour que tout s'écroule? L'opposition est importante. Mais elle ne s'arrête pas là non plus. En Néhémie, le peuple avait persévéré malgré la moquerie. Verset 38. Nous avons continué à reconstruire la muraille de telle sorte qu'elle soit partout consolidée jusqu'à la moitié de sa hauteur et le peuple a pris ce travail à cœur. Ils ont persévéré malgré l'opposition initiale. Ils n'allaient pas s'arrêter juste à cause d'un peu de moquerie. Et pourtant, les gens commencent à être fatigués. En lit, les Judéens disaient « La force des porteurs de fardeaux va faiblissant. Il y a tellement de décombres que nous ne parviendrons pas à reconstruire la muraille. » Dans cette vie, dans l'œuvre de Dieu, la fatigue est un réel danger. Parce qu'en fait, Sanballat n'avait pas tort. En tout cas, pas tout à fait. Le peuple n'allait pas reconstruire les murailles dans un jour. C'est souvent comme ça avec les mensonges de Satan, les attaques de Satan. Il y a un peu de vérité mélangée avec le mensonge. Et du coup, c'est vrai. Le peuple est fatigué. C'est normal. Il travaille en équipe, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Mais même en équipe, le travail n'est pas forcément facile. Il faut le reconnaître. Il ne faut pas imaginer que l'œuvre du Seigneur ne sera jamais fatigante, que le poids ne dépassera jamais nos forces à nous. C'est en pensant comme ça que certains laissent tomber, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas les bonnes attentes. On imagine que la vie chrétienne est une vie en rose. Mais ce n'est pas le cas. C'est la vie d'un soldat. Jésus lui-même en parle. Juste après le verset bien connu, en Luc 14, lorsqu'il dit « Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Celui qui ne porte pas sa croix, il compare la vie chrétienne, la vie d'un disciple, après, juste après ce verset, il la compare aux deux choses que nous voyons dans ce chapitre. Quelqu'un qui consume un tour et une roi qui sort en guerre. Nous n'allons pas lire le passage, mais vous pouvez trouver. Luc 14. La construction et la bataille. Et dans les deux cas, ça va coûter quelque chose. Dans les deux cas, ça va coûter. Pourquoi? Parce que le combat sera rude. Il y aura de la moquerie, il y aura de la fatigue. Et puis, au verset 2, nous avons lu, ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Maintenant, il y a aussi le danger. Ça s'augmente. Ça ne s'arrête pas. La moquerie, la fatigue, et maintenant le danger. C'est plus juste une question de réussir ou pas à reconstruire les murailles. C'est plus juste une question de se sentir coupable ou pas, capable ou pas. C'est plus une question de fatigue ou de découragement. Maintenant, c'est une question de vie et de mort. Imaginons le peuple, là, à Jérusalem, en train de construire. Les gens apprennent qu'il y a un complot. Un complot pour les attaquer et tuer ceux qui travaillent. Non seulement sont-ils découragés et fatigués, maintenant ils doivent regarder autour d'eux à chaque instant par peur que l'attaque arrive. Chaque son, chaque mouvement, c'est l'ennemi qui arrive. Imaginez si nous devions porter une épée ou un fusil toute la journée, au boulot, à table, à la maison. Comment ce serait difficile de travailler avec un marteau dans une main et une épée dans l'autre? Très peu d'entre nous ont l'impression, j'imagine, d'avoir vécu ce genre de danger dans notre vie. Et encore moins à cause de notre foi. Certains peut-être, si, quand même. Ça existe dans ce monde. Il y en a qui se mettent en danger chaque jour pour vivre l'évangile. Par contre, c'est assez rare ici en France. Et pourtant, et voici ce qui est important, même si ce genre de danger est assez rare ici en France, nous sommes tous exposés à ce même niveau de danger chaque jour. Parce que, comme le dit le fameux passage en Éphésiens 6, sous la nouvelle alliance, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Les enjeux de notre combat ne sont pas physiques, ils sont spirituels. Vous le savez bien, je pense, mais regardons bien cette image, cette histoire de Néhémie. Parce que même pour Néhémie, les enjeux étaient spirituels. Si Néhémie avait été tué, cela aurait été désagréable pour lui, bien sûr, mais ce n'était pas la chose la plus importante en fait. La chose la plus importante était que le peuple continue à restaurer le temple et la ville qui le protégeait, afin que la présence de Dieu se manifeste dans ce monde. Et c'est pareil pour nous. Si nous ne sommes pas appelés à construire des murailles de pierre et un temple de pierre, nous sommes quand même appelés à construire un temple. Vous le voyez bien, le temple de Dieu qui commence avec notre cœur, la demeure du Saint-Esprit, et qui s'étend jusqu'à l'Église globale. Dans ce sens, nous avons exactement la même mission que le peuple d'Israël. Nous avons le même projet de construction, sauf que maintenant, le temple est vivant. Et donc, nous sommes face au même danger. Quand vous lisez Néhémie, vous lisez votre histoire aussi. Nous sommes face au même danger. Parce que Satan veut à tout prix détruire ce temple. Il veut détruire le bien que le Saint-Esprit est en train de faire, en train d'opérer dans ton esprit. Vous l'avez constaté, peut-être. l'Esprit Saint, il commence à faire quelque chose en toi, et puis, bah, il y a l'attaque. C'est normal. Vous êtes un soldat. C'est normal. Satan veut détruire ce bien et il veut surtout empêcher que ce bien se répande. Aujourd'hui, le but de Satan est d'empêcher l'amour et la grâce et la puissance de Dieu d'envahir ton esprit, parce que la prochaine chose qui va arriver, si ces choses envahissent ton esprit, c'est qu'ils vont déborder. Ils vont déborder dans la vie de ceux qui t'entourent. Satan veut à tout prix que nous ne construisions pas dans notre vie le temple rayonnant que nous pouvons être. Et c'est pour ça qu'il attaque. Et quand il attaque, du coup, c'est pas principalement pour nous faire du mal au niveau physique, c'est pour attaquer ton âme. C'est pour attaquer ton esprit. Si tu es enfant de Dieu, il peut pas l'avoir. C'est sûr, tu le comprends, vous le comprenez. Si tu es enfant de Dieu, Satan ne peut pas avoir ton âme. Ta vie est cachée en Dieu. Tu es en Christ, il peut pas l'avoir, mais il peut détourner ton âme de la vie abondante que ton Père t'offre. Il peut détourner ton esprit de la mission que tu as. Nous sommes tous comme les ouvriers à Jérusalem, en train de réparer les brèches dans les murs. Dans notre vie, dans ce monde, dans l'Église, chaque jour, nous nous levons et par nos actions et nos pensées, nous posons une pierre dans la muraille ou nous l'enlevons. Un mot d'encouragement pour une sœur, c'est une pierre dans la muraille. Une prière pour ton prochain, c'est une pierre dans la muraille. Mais une attitude de mépris, c'est un vide. Une pensée cruelle ou de convoitise, c'est un vide. Une brèche dans la muraille. Toute notre vie, nous construisons le temple de Dieu par notre vie. Mais avec quel matériel? C'est ça la question qui est posée en 1 Corinthiens 3. Vous connaissez peut-être le passage. Construisons-nous avec de l'or et de l'argent ou avec la paille? J'y reviens un autre dimanche. Mais sachez que les attaques de Satan n'ont qu'un seul but. C'est de détourner notre main de la construction d'un temple digne de notre Dieu. Le découragement, la fatigue, la tentation, le péché, l'indifférence, ils ont tous pour but l'affaiblissement du temple que nous sommes. Chacun individuellement et nous tous ensemble. Et Satan, il ne rigole pas. Il nous entoure avec ses millions. Comme Sanballat et Tobijar pour arrêter la construction de ce temple spirituel en nous. Et donc, comme application, ça soulève la question. Qui est Sanballat dans votre vie? Qui est Tobijah? Qui cherche à faire arrêter la construction spirituelle en vous? Prenons un instant pour y réfléchir. J'imagine que nous pouvons tous penser à une personne qui semble être un Sanballat dans notre vie. Et nous voulons peut-être même prier comme Néhémie, ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés devant toi. Mais là, attendez, c'est un peu choquant cette prière, n'est-ce pas? Car Jésus dit, priez pour vos ennemis et bénissez ceux qui vous persécutent. Et Jésus lui-même, c'est lui qui pardonne ceux qui le crucifient même. Alors, comment Néhémie peut-il dire une telle chose? Donc, avant de continuer en pensant à notre Sanballat, une petite parenthèse. L'une des possibilités ici, c'est que Néhémie a tort de prier comme ça. Quand nous lisons une histoire dans la Bible, il faut toujours considérer la possibilité que la personne dont on lit, sauf s'il s'agit de Jésus lui-même, que la personne a tort. C'est une possibilité. Même les grands héros de la foi étaient des êtres humains imparfaits. Ils sont pas toujours de bons exemples pour nous. Cela dit, dans cette histoire, je ne vois pas d'indication dans le texte que c'est le cas. Et nous avons d'ailleurs des psaumes qui sont semblables à ces prières. Je pense que c'est plus probable, en fait, que le sens de cette prière n'est pas une demande de la part de Néhémie que Dieu ne pardonne jamais ces personnes, mais plutôt que Dieu ne les ignore pas, que la justice soit faite. C'est comme si nous prions, Seigneur, tu sais que telle ou telle personne nous maltraite. Ne permets pas à ce qu'elle réussisse, mais tourne ses projets contre elle. Ne laisse pas tomber le sujet. Rends la justice à ma place. Voilà le sens de la prière de Néhémie, il me semble. Mais quoi qu'il en soit, nous savons que pour nous, dans tous les cas, ce n'est pas contre les hommes que nous allons lutter, mais contre les puissances spirituelles. Donc ça veut dire que c'est pas ton voisin qui est ton Sambalat. En fait, c'est Satan. C'est Satan qui est. Le peuple d'Israël était appelé à restaurer le temple et la ville physique. Et donc les ennemis et le combat étaient physiques. Il s'agissait bien d'épées et de trompettes et de pierres littérales. Mais maintenant, nous savons bien, j'espère, le temple est un temple vivant et le combat est spirituel. Si les Israélites étaient postés autour de la ville avec leurs épées et leurs lances et leurs armes, jour et nuit pendant la construction, nous aussi nous avons nos armes. Lesquelles? Ben, vous le connaissez. Éphésiens 6, n'est-ce pas? Éphésiens 6, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de zèle pour l'évangile, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de la parole, ce sont nos armes. Et vous voyez donc pourquoi ces choses sont si importantes, pourquoi on le dit et le redit. Lire la parole, prier, rester fidèle, obéir à la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour être légaliste, c'est pour se protéger. C'est pour avoir les armes qu'il faut pour cette vie. Parce que le combat est réel, aussi réel pour nous qu'il était pour les Israélites. Nous avons du mal à le croire des fois. Mais il est même plus réel parce qu'il est purement spirituel et à ce niveau-là, il va au profond. Il est aussi réel que si nous marchions chaque jour dans une zone de guerre avec des snipers sur les toits lorsque nous allons au RER ou au marché ou à l'école pour chercher les enfants. Il est aussi réel que ça. Mais alors, comment ne pas avoir peur? Comment ne pas vivre chaque jour immobilisé par le danger spirituel, par l'ennemi qui vient égorger et détruire notre vie spirituelle, notre foyer, notre ministère, notre église, qui vient pour détruire. Et là, j'avoue que je parle autant pour moi-même que pour vous. Parce que moi, par exemple, je vois quelque chose de très beau dans cette assemblée. Et donc c'est facile pour moi. Quand je me rends compte de l'opposition, ce serait très facile pour moi de vivre dans la peur. Parce que quand on a quelque chose de beau, on ne peut pas le perdre. On pourrait vivre dans la peur que ça disparaisse, que Satan arrive à le détruire. Je ne sais pas dans quel aspect de votre vie l'ennemi peut vous faire peur. Ce qui vous est cher, sûrement. On peut avoir peur, mais la parole est là pour nous donner de l'espérance et une stratégie de contre-attaque. Nous allons donc voir trois choses pour terminer par rapport à notre réponse, notre façon de combattre. D'abord, nous devons reconnaître la puissance de nos armes et nous devons les porter. Si ce projet de construction, ce projet de construire notre vie sur Jésus-Christ n'est pas un simple projet de construction, mais un combat, alors nous devons porter nos armes chaque jour. Au début, le peuple d'Israël ne se rendait pas compte qu'il fallait porter ses armes. Mais ils ont compris assez vite. Dès que le danger arrive, ils ont compris qu'il faut porter nos armes. Ils ont compris que ça ne servait à rien de construire les murailles avec deux mains si l'ennemi les tuait pendant leur travail. Mieux de construire avec une main et combattre avec l'autre. Pour cette église, alors, encore comme exemple, ça ne sert à rien de se lancer à deux mains dans l'aménagement de notre nouveau local et de négliger le temps d'intercession, par exemple, ou les groupes de maison, ou notre lecture de la parole personnelle. Ça ne sert à rien de construire une équipe très douée pour diriger la louange si nous ne portons pas la ceinture de la vérité à chaque fois que nous chantons. Et ainsi de suite. Vous pouvez penser à vos propres exemples. Mais c'est de même pour notre vie personnelle. Quel que soit le projet, que ce soit de reconstruire une relation, un ministère, une famille ou notre propre caractère, ça ne sert à rien si nous laissons nos armes à côté. Le projet sera détruit avant que nous puissions même commencer. Il faut porter nos armes chaque jour. Deuxièmement, et là, je vous encourage à lire Éphésiens 6. On va pas entrer dans les détails, mais il est là pour ça. Deuxièmement, nous devons rester unis, nous devons combattre ensemble. Nous l'avons vu la semaine dernière, et encore aujourd'hui, devant les murs, chacun avait son épée. Mais il ne combattait pas seul, chacun pour soi. Non, on a lu, combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Est-ce que nous combattons pour nos frères, nos fils, nos filles, nos familles et nos maisons? Le peuple d'Israël était prêt à combattre ensemble. Ils s'organisaient en sorte que certains travaillaient pendant que d'autres gardaient les ouvriers. Et dès qu'il y avait du danger, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au son de la trompette, tous venaient pour combattre ensemble. J'aime cette image, ce serait un super film. Au son de la trompette, tous venez pour combattre ensemble. Et j'aime cette image de l'église. Comme au verset 13, le travail est immense et le chantier étendu. Nous ne sommes pas tous ensemble chaque instant de la semaine. Didier l'a dit au début, ce serait super d'être tous ensemble pour adorer le Seigneur toute la semaine. Mais nous ne sommes pas parce que le travail est immense et le chantier est étendu. Nous ne sommes pas tous ensemble, mais nous nous voyons dans une maison, à l'intercession, au groupe d'études, autour d'un repas ou un café. Et dès qu'il y a un besoin, les frères et les sœurs sont là. J'ose le dire parce que je le vois dans l'assemblée. Ils prient, ils encouragent, ils appellent. Cet été, par exemple, à ce que j'ai entendu, presque toutes les femmes de l'église priaient pour notre sœur Corinne. Grâce au groupe WhatsApp. Même si on était éloignés les uns des autres. C'est comme ça que l'église doit fonctionner. Et du coup, si l'un d'entre nous, si toi personnellement, si tu n'as pas l'impression qu'on prie pour toi et qu'on ne te soutient pas à un certain moment, s'il te plaît, dis-le à quelqu'un. Dis-le à quelqu'un. Exprime ton besoin pour qu'on puisse te soutenir et qu'on puisse être de plus en plus unis dans le combat. Si on ne le dit pas, on ne saurait jamais. L'Église existe pour ça. Nous devons combattre les uns pour les autres. Nous devons pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent, comme le dit Romains 12. C'est ça la famille de Dieu. Une armée qui se lève. Mais tout cela ne serait pour rien sans le prochain verset. Verset 14. J'ai déjà lu la première partie. Au son de la trompette, rassemblez-vous près de nous, à l'endroit où vous l'entendrez sonner, et notre Dieu combattra pour nous. Nous devons nous fier à celui qui combat pour nous. Notre Dieu combat pour nous. Nous le disons souvent, et c'est vrai. Nous allons donc terminer juste en nous rappelant brièvement de qui nous parlons. C'est ça vraiment la question. De qui parlons-nous? Qui est-ce qui combat pour nous? Nous avons vu que le combat est réel. L'ennemi est dangereux. Il veut détruire ta vie. Il veut faire écrouler tout ce que tu veux construire dans ta vie. Il veut te convaincre que ces pierres sont mortes. Que ces décombres dans ta vie ne revivront jamais. Vous avez vu cette phrase-là? Il y a des pierres mortes ensoulevées de la poussière. Que fait donc ce misérable chrétien? Satan le dit. Que fait ce misérable chrétien? Va-t-il redonner vie à des pierres ensevelies sous des tas de poussière et réduites en cendres? Encore, il y a un peu de vérité là-dedans. Vas-tu redonner vie à ta vie qui est en cendres? Non, tu ne vas pas. Tu ne peux pas. Mais n'ayez pas peur, dit Néhémie au peuple. N'ayez pas peur. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, celui qui combat pour nous, parce que c'est lui qui redonne la vie aux morts. C'est ça la clé. Il n'est pas juste un guerrier. Il est l'Éternel qui redonne la vie. C'est pas toi, c'est pas moi qui redonne la vie. C'est l'Éternel qui envoie son esprit. Il envoie son esprit pour que les os dans la vallée des ossements desséchés revivent à la vie. Comme dans la vision des Ésaïe, vous connaissez. Alors, l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis, ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Une armée qui reprend la vie. Mes frères et sœurs, nous sommes une armée nombreuse. Une armée de lumière. Une armée de grâce et d'amour. Et nous avons nos armes. Nous avons les uns les autres. Et nous avons notre capitaine, Jésus-Christ, le Seigneur des armées. Il nous envoie son esprit qui redonne la vie à des pierres ensevelies de poussière. Bâtissons donc avec joie, parce que c'est par sa force que nous bâtissons. Amen.
De rappeler ces stratégies qui nous donnent la victoire